Paul d'Ivry.
Bonjour, nous sommes le 13 février 2025. Vous êtes bien sûr 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Nous sommes la classe de CM2B à l'école Maurice Thorez B. Je m'appelle Daoud et je suis avec Imad. Salut. Younes,
c'est moi.
Et Oudna,
bienvenue.
Les 40 ans de Radio Cartable, c'est fini. La radio vient d'avoir 41 ans. Mais vous pouvez toujours voir l'exposition à l'espace Gérard Philippe. Et elle restera encore en place pendant toutes les vacances.
Depuis le 29 janvier, vous pouvez aller au cinéma voir le film « Apprendre de Claire Simon » tourné à l'école Makarenko. Il montre le quotidien des élèves depuis l'arrivée à l'école jusqu'au départ au collège.
Le droit à l'éducation est cité par beaucoup d'enfants comme un droit essentiel à leurs yeux. Et pour apprendre, il faut se sentir à l'aise sans avoir peur de se tromper. Pourquoi a-t-on droit à l'erreur lorsqu'on apprend? Pensez-vous qu'il est possible d'apprendre sans faire d'erreur?
Moi, je pense non. Si on fait des erreurs, c'est pas grave. Après on va savoir l'erreur qu'on a fait. Et après, on va plus faire cette erreur.
Non, pour moi, c'est impossible d'apprendre sans faire d'erreur. Car quand on fait des erreurs, on peut se relire et après mieux écrire.
Pour moi, c'est comme Daoud. On est obligé de faire des erreurs à l'école pour s'améliorer, pour se surpasser.
Non, pour moi, c'est impossible d'apprendre sans faire d'erreur, car l'erreur est la meilleure chose qu'on peut apprendre.
Non, pour moi, dans la vie, il faut toujours faire des erreurs pour revenir à la même erreur et dire la bonne réponse.
Nous reviendrons sur tout cela dans l'émission. En attendant, place au sommaire.
Voici le sommaire.
À 14h05, un poème pour la Chandeleur. Merci à Maïssa et Jaden du CE1A de l'école Rosaline Franklin. Vous aimez les poèmes? Envoyez vos enregistrements à radio-cartable@ouvaton.org.
À 14h06, les mêmes CE1A de l'école Rosaline Franklin décryptent une nouvelle affiche de presse sur le gaspillage alimentaire.
L'affiche provient du journal Un jour, une actu et elle est parue en juin 2022.
Vous pouvez la télécharger sur le site de Radio Cartable.
À 14h12, dans Interview croisée, on retrouvera les droits de l'enfant commentés par les enfants et leurs parents. Sur le stand de Radio Cartable, le 23 novembre.
Cette partie rassemble plusieurs interviews.
Isaac, en CM2 à l'école Makarenko, revient sur ses impressions lors du visionnage du film « Apprendre » de Claire Simon, film auquel il a participé.
Et celle de Mamadou et Assita, Maya et Kachi, Sira et Abi Kounoul, Mohamed Ibrahima, Pablo et Naram, Jani et Fessal.
À 14h30, dans Radar, nous écouterons les élèves du centre de loisirs Thorez.
La galerie Fernand Léger les a invités à redécouvrir les œuvres qu'ils ont dans nos rues et dans nos parcs.
Devinerez-vous les sculptures qui se cachent derrière leur description?
N'oubliez pas de télécharger le questionnaire.
À 14h40, dans les secrets de l'école, les 5e du collège Politzer nous présentent leur section. Pour tout comprendre, écoutez-les.
À 14h50, dans reportage dans mon cartable, nous, les deux CM2 de l'école Torres B, vous raconterons la suite de l'histoire de Lise et Odette, deux ivriennes résistantes et déportées durant la Seconde Guerre mondiale. C'est parti pour l'épisode 2. L'ensemble des épisodes est déjà à retrouver sur le cabinet de curiosité des archives municipales.
Tape sur la tête, boum, il se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. T'as besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Maïsan.
Bonjour, je m'appelle Jaden. Nous sommes de la classe de CE1A. À l'école Rosaline Franklin.
Nous allons vous réciter la poésie Crepson de Fabienne Bartomier. Crepson.
Si tous les jours c'est comme ça.
Moi j'applaudis, t'es dis-toi.
En classe avec la maîtresse.
On se délasse, on fait des crêpes.
De la farine, des œufs, du lait.
Du sel et un beau saladier.
Rien me manque, tout est là.
On n'a plus qu'à croiser les doigts.
La maîtresse nous fait confiance.
Et les crêpes, tout seul, on lance.
Ouvrez vos yeux, bien grandes, bien
rondes, à trois, nos crêpes s'envoleront.
Fabienne Bartomier.
Il se tape sur la tête, boum, il se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. T'as besoin de comprendre.
À quoi ça sert de faire du sport?
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles.
Débat, c'est intéressant ou pas?
X-Sagesse.
X-Sagesse.
Bonjour, nous nous appelons Eyana,
Ibrahim,
Léonard,
Ismaïl,
Aditi,
Samuel,
Raphaël,
Salma.
Nous sommes les élèves de la classe de CE1A de l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
En janvier, nous avons travaillé sur le gaspillage alimentaire.
C'est le titre de notre affiche qui veut nous alerter sur le gâchis de nourriture.
Oui, le gaspillage alimentaire, c'est quand on jette de la nourriture au lieu de la manger.
Trop bon les raisins. Non, merci.
On voit de la nourriture dans une poubelle. On a tellement qu'une partie est tombée par terre autour de la poubelle.
On se demande comment on peut jeter autant de nourriture alors qu'elle aurait pu être consommée.
Il y a beaucoup de personnes
qui n'ont pas de quoi se nourrir à leur faim et pourtant la poubelle déborde.
C'est un vrai problème.
Il y a une pomme entamée qui commence à pourrir.
La personne qui l'a laissée pourrir a eu un mauvais comportement.
Nous voyons un plateau de cantine avec de la nourriture parce que l'enfant n'a pas fini son plat.
Peut-être qu'il n'aimait pas.
Mais encore une fois, c'est de la nourriture qui va se retrouver dans la poubelle.
Il y a aussi un réfrigérateur rempli de nourriture.
Lorsque l'on a assez pour se nourrir, il n'est pas nécessaire de refaire des courses.
Sinon, on risque de laisser des aliments périmés ou pourris et ça produit du gaspillage.
Pour éviter le gaspillage, quand un produit commence à pourrir, on peut couper ce morceau et manger le reste.
Il est important de trouver des solutions pour diminuer ce gaspillage.
Et chacun peut lutter à sa façon.
Alors ne laissez plus nos poubelles se remplir avec nos aliments.
Bonjour, on est au Petit Robespierre. On est le 23 novembre 2024. Nous sommes à Ivry, Anaïs,
Alicia.
Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, vous savez? On fête les droits des enfants.
Bonjour, je m'appelle Sarah et j'interview
Mamadou
et
Asita.
Alors, on va lire tous les droits pour les enfants qui existent ensemble, d'accord? Vous allez nous dire après lequel vous semble le plus important pour vous. Toi, lequel te semble le plus important?
D'avoir la liberté. Moi, d'être... d'exprimer tout ce que j'ai envie, mon avis, de donner mon avis.
Pourquoi est-ce que c'est le droit qui te semble le plus important?
Parce que je suis... en quelque sorte timide, donc je ne sais pas trop dire mon avis. Lorsque tu prenais la parole, à quoi faisais-tu attention?
À pas la couper la parole. C'est du mal respect. À bien parler. À parler bien fort. Et aussi, et expliquer quelque chose de gentil.
Quelle est ta langue maternelle?
Le français.
Parles-tu d'autres langues?
Et toi, parles-tu d'autres langues?
Oui.
Lesquelles?
Ma langue est le français et un peu l'anglais.
Et quelle est ta langue alors?
Ma langue, elle s'appelle le Bambara. Peux-tu apprendre ta langue à l'école? As-tu des livres dans ta langue?
Non. Non.
Non. Mamadou, est-ce que tu peux me dire quelque chose en Bambara?
Oui. Métaphore.
Ça veut dire, je vais pas le dire.
Ok, merci beaucoup à tous les deux. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'interviewe
Maya
et
Kadji.
Quel âge avez-vous toutes les deux?
Moi j'ai 5 ans, 7 ans.
Est-ce que pour toi le plus important c'est d'être logé, de grandir dans de bonnes conditions, de rêver, de rire, d'être protégé, d'être soigné?
D'être à l'école.
D'être à l'école? Et pourquoi pour toi c'est le plus important d'être à l'école?
Parce qu'il faut travailler.
Parce qu'il faut travailler. Et pourquoi il faut travailler à l'école?
Parce qu'il faut donner des forces à l'école.
Ça donne des forces de travailler? D'accord, merci beaucoup. Tu t'appelles?
Bonjour, je m'appelle Syrah, j'ai 8 ans.
Bonjour, comment vous vous appelez?
Bonjour, je m'appelle Abi Koundoul.
J'appelle Mohamedou Ibrahima.
Tu es en quelle classe?
Moyen.
Quel droit tu aimerais avoir dans l'école, dans la communauté?
Bien joué.
On dit que le plus important, c'est avoir une éducation. Parce que l'éducation, avec ça, on grandira, on saura lire, écrire, savoir la politesse et plein d'autres choses.
Oui, je suis d'accord avec Syrah sur ce point-là. L'éducation, c'est la base de toute formation. Et ça permet à tout enfant de pouvoir vivre en société, d'être civilement respectueux envers tout le monde. Voilà, pour moi, droit à l'éducation.
Penses-tu que l'on respecte la vie des enfants sur les sujets qui les concernent?
Qui les concernent? Alors oui, j'ai l'impression que de plus en plus on donne accès aux enfants à leurs droits et on les écoute de plus en plus sur leurs besoins personnels, leurs besoins primordiaux. Et je pense que actuellement, il y a une grande partie qui se fait en Europe. Cette partie-là devrait être externalisé dans les autres continents pour que tout enfant exprime ses besoins et que ces besoins-là soient pris en compte, si c'est possible, dans la mesure où c'est possible, et voilà, qu'ils sachent qu'ils font partie de la communauté actuellement.
Bonjour, je m'appelle Janie. Comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Fessal.
Quel âge as-tu?
42 ans.
Est-ce qu'il y a parmi ces droits un droit qui vous importe davantage?
J'ai le droit d'en choisir deux?
Oui.
D'être aimé, d'avoir un toit.
C'est de s'exprimer, de donner son avis, de s'informer, de diffuser une bonne information. L'enfant doit pouvoir s'exprimer dès le plus jeune âge pour pouvoir donner son avis plus tard de manière éclairée.
Penses-tu que l'on respecte l'avis des enfants sur le sujet qui les concerne?
Non, pas trop justement, parce que souvent, on ne prend pas en compte la parole de l'enfant, on la met souvent en doute. Donc, je trouve que ça, on ne respecte pas assez.
Lorsque tu étais enfant, tu te souviens-tu d'un moment où on n'a pas pris au sérieux ton avis ?
J'ai pas de moment précis, mais je sais qu'on ne prenait pas réellement mon avis, tout simplement parce que vu que je faisais beaucoup de bêtises, ils se sont dit, tiens, c'est un enfant qui fait des bêtises, donc qui ment forcément, alors que c'est pas vrai.
Sais-tu pourquoi ?
C'est ce qu'on appelle des clichés. C'est que tout de suite, un enfant turbulent, c'est un enfant menteur, alors que c'est pas vrai. Alors, Jenny, aimes-tu prendre la parole dans ta famille, en classe ou bien devant un plus large public ?
Oui, j'aime bien, puisque, en fait, quand on m'écoute, je sens une impression qu'en fait, que je peux donner mon avis, que mon avis va être prendre en compte, on va y réfléchir.
D'accord. Et lorsque tu prends la parole, à quoi tu fais attention ?
À ce que je dis moi, mais pas à l'attention des autres.
Pablo.
Naram. Tous les droits sont au même niveau d'importance pour les enfants. Je ne saurais m'exprimer sur un droit en particulier, mais il y a une cause qui me tient à cœur en tant que maman engagée sur les enfants qui sont sans domicile fixe ou encore à la rue, donc celui d'être logé surtout et de grandir dans de bonnes conditions. Mais sinon, tout est lié et c'est... Enfin, comme le droit à l'éducation, à l'égalité, ça en fait partie. Tout est lié.
Être aimé et respecté, être protégé de la violence. Penses-tu que l'on respecte la vie des enfants sur le sujet qui les concerne ?
Je l'espère, en tout cas. Pour moi, oui. Et je fais de mon mieux.
Lorsque tu étais enfant, te souviens-tu d'un moment où l'on n'a pas pris au sérieux ton avis ?
Oui. Je me souviens d'un moment quand j'étais enfant et qu'on n'avait pas pris au sérieux.
Sais-tu pourquoi ?
Parce que je pense que... Il n'y avait pas une écoute, qu'il y avait quelque chose d'autre qui était pour les adultes autour de moi plus important que ce que j'avais à dire.
Merci, respectez la vie des enfants.
Petit Robespierre, on est le 23 novembre 2024. Nous sommes à Ivry, Anaïs,
Alicia.
Et qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, vous savez ? On fête les droits des enfants.
Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
On a le droit de partir à l'école. Les enfants ont le droit de faire des erreurs. Les filles ont le droit de jouer au foot. C'est pas que les garçons. Le foot, j'adore foot.
On a le droit de danser et de chanter. Les enfants ont le droit de faire des erreurs. Le droit à l'amour et au respect.
Je m'appelle Gaëlle et toi, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Isaac. Je suis dans l'école élémentaire Makarenko et je suis en classe de CM2B.
À l'école Makarenko, l'année dernière, je crois, ou peut-être il y a 2 ans, il y a une cinéaste qui est venue filmer dans l'école. Et elle a fait un film qui s'appelle « Apprendre ». Est-ce que tu peux nous dire déjà si tu l'as vu et quand ?
Je l'ai vu l'année dernière avec ma classe. Mmh. Et cette année, on est parti à l'UNESCO pour faire l'avant-première. Et on a dit bonjour à tout le monde.
Vous êtes montée sur scène. Ok. Et donc, tu as été filmée ?
Oui, une fois, mais pas de la bonne façon.
Alors, c'était dans quel moment ?
C'était pendant la classe où le maître, il disait « C'est quoi un xylophone ?» Et moi, je dis « C'est un téléphone à l'ancienne. » Mais non, c'était un instrument de musique. Et après, le maître, il dit « Non, c'est pas ça. » Et moi, je dis « Oui, c'est ça. » C'était des questions pour savoir c'est quoi des instruments, c'est quoi ça. C'est...
Et du coup, tu trouves que c'est pas drôle de se voir représenté en train de se tromper, c'est ça ?
Bah, c'est drôle pour les gens qui regardent, mais pour moi, c'est pas vraiment bien.
Mais est-ce que à un moment donné, toi, tu as trouvé la solution grâce au maître ou grâce à tes camarades ?
Oui.
Et est-ce que ça, c'est dans le film aussi ?
Non. C'est juste la partie où je pose la question et que je dis oui et c'est non.
Et est-ce que tu as eu l'impression que dans le film, on disait les enfants, ils n'ont pas le droit de se tromper, c'est horrible s'ils se trompent, c'est vraiment très, 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 très grave.
Bah non, pour moi, ils vont rien dire parce que justement, je me suis trompée, on a tous le droit de se tromper.
Bah oui, mais je crois que tu as raison, mais est-ce que tu penses que la cinéaste, elle pense comme ça aussi ?
Bah bien sûr, parce que quand je suis montée sur scène, elle a reconnu, elle m'a dit oui c'est bien, t'as pas fait attention à la caméra, etc.
D'accord. Donc qu'est-ce que tu penses du film globalement, en essayant d'oublier ce rôle que tu aimes pas ?
En globalité c'était bien, elle a filmé vraiment les moments intéressants, mais les moments où il y avait de l'action, où il y avait beaucoup de choses, de l'action. Par exemple... Il y avait des gens qui mangeaient des feuilles, elle a filmé, même si ça avait peu de sens, mais c'est pas grave.
Des gens qui mangeaient des feuilles ?
Oui, ils faisaient une soupe et il y en a un, il a mangé une feuille.
Ils inventent un jeu avec les feuilles.
Très bien, oui c'est ça.
Et en fait, elle a réussi à filmer à l'intérieur de vos jeux, sans se faire remarquer.
Alors, ils étaient trop concentrés avec leur jeu, du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop remarqué.
Donc, selon toi, ce qu'on doit retenir de ce film, c'est quoi ?
C'est que quand les enfants ils jouent, etc., c'est que les enfants ils font à peu près la même chose que les adultes, mais d'une autre façon. Et je suis très contente d'être passée à l'UNESCO, je suis très contente d'être passée dans le film, et je dis merci à la personne qui a filmé, et aussi à celui qui tenait le micro. Les enfants ont le droit de faire des erreurs.
Nous sommes le centre de loisirs
Maurice Thorez.
Nous allons présenter
les œuvres d'art
d'Ivry-sur-Seine.
Les œuvres d'art nous seront expliquées par
la galerie Fernand Léger.
C'est parti pour la visite.
Allez, viens. Non, t'auras pas de caresses. Tu viens. Allez, laisse les enfants. Je sais que tu veux des caresses. Allez, s'il te plaît. Je m'excuse.
Alors là, on est devant l'œuvre...
et on va se poser des questions sur ce qu'on est en train de voir.
C'est une fontaine.
Pourquoi elle est immense et...
Pourquoi elle a été faite?
Est-ce que ça a été fait par des gens ou par... Comme quand on prend un clou et on tape dedans?
Pourquoi elle s'appelle comme ça?
Je crois que le nom c'est italien ou espagnol.
Et donc vous m'avez pas dit qu'est-ce que vous voyez sur cette sculpture? Ça représente quoi?
Une femme?
La dame est tout nue.
Mais pourquoi?
Est-ce qu'on voit son corps en entier?
Non. On voit pas ses jambes, ni ses pieds.
Ni son ventre.
Son ventre.
On voit pas le derrière.
Est-ce qu'à votre avis, où sont ses jambes et ses bras?
Sous terre. On n'a pas.
Et ben voilà, bah ça c'est le mystère. Est-ce qu'elle a des jambes? Est-ce qu'elle a des bras? Est-ce que c'est dans la terre? On peut que s'imaginer. Alors, donc effectivement, c'est une œuvre très grande. Vous voyez, on voit de la tête. Vous avez une idée jusqu'où? Il y a le continuement de ses jambes dans l'herbe. On voit aussi que c'est du marbre, effectivement. Comment on voit que c'est du marbre?
Bon, en fait, sur le marbre, comme il a dit, il y a des traces, mais c'est des traces un peu claires, comme du bleu clair.
Puisque vous voyez, souvent, le marbre, c'est blanc. Alors, c'est pas que blanc, mais sur celle-ci, c'est blanc. Et on voit, justement, les traces noires qu'on voit. Ça s'appelle les veines du marbre. Et c'est comme ça qu'on remarque que c'est le marbre, effectivement.
Les traces, elles sont vieilles, surtout sur la tête et le nez. Il est très vieux, on dirait.
On voit que c'est vieux. Et ben la sculpture, elle a été faite en 1988. Ça fait 37 ans. Et donc, le nom de l'œuvre, c'est la Pachamama. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la Pachamama?
Mama, c'est maman?
Ouais. Une idée? Eh ben, la Pachamama, c'est une divinité ancienne de la mythologie d'Amérique latine qui représente la déesse de la terre, comme la mère de la terre, la mère de la nature.
Aussi, on voit à côté de la sculpture, si on veut se mettre en face, ben on voit ses cheveux, c'est des feuilles. Ils ont été plantés exprès pour que ça soit ses cheveux.
Alors là, on est devant qui a été faite la même année que la Pachamama.
On peut voir que ici c'est de la pierre, du béton.
Il y a du béton qui a des différentes couleurs. Ça change de l'œuvre qu'on a vue avant. Il y a du fer. Et ben vous voyez, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur. On n'est pas censé voir, mais comme c'est cassé, on voit que c'est du béton sur du fer. Ça s'appelle du béton armé quand il y a du fer dans le béton.
On voit des grosses mains et un nez là-bas.
Un gros nez.
Bah, ses yeux.
On voit des yeux, un nez, des mains. Donc, qu'est-ce que c'est?
On voit le visage.
Mais est-ce que c'est un visage d'humain, vous pensez?
Bah, il n'y a pas d'oreilles.
Elle n'a pas de corps.
Il n'y a pas de bouche.
Si, c'est le banc, sa bouche.
Ah, c'est le banc. Et alors, l'autre œuvre, c'était une œuvre et une fontaine. Et celle-ci, c'est une œuvre et...
Bon.
Et un banc. Alors là, on est devant Masque Visage de Charles Semser.
C'est un mini Shrek.
Ouais, un mini Shrek, c'est un peu un monstre en fait cette sculpture. Comme si l'artiste, il voulait faire un peu comme si c'était un monstre qui était enfoncé dans le sol, comme si la ville d'Ivry avait un visage, et ben ce serait cette œuvre-là. La ville, quand elle a construit le parc, elle a demandé à des artistes de faire des sculptures pour décorer le parc, pour qu'on puisse les admirer, ou pour qu'on puisse s'asseoir, pour que ça puisse être une fontaine. Et donc, c'est des artistes, ils font plein de projets, et après, on sélectionne les artistes en fonction des projets que la ville préférait. Ces œuvres d'art, elles appartiennent à la ville, et donc elles appartiennent aussi à vous. C'est pour ça que vous pouvez les toucher, c'est pour ça que c'est des bancs, c'est pour ça que c'est des fontaines. Vous pouvez les regarder, vous pouvez aussi ne pas les regarder, vous pouvez les trouver belles, les trouver moches. Vous posez plein de questions et moi je vous invite à chaque fois que vous allez voir une œuvre d'art, et ben vous allez vous poser des questions.
De quel endroit on préfère la voir?
Elle est faite comment?
Quand elle est née? C'est quoi son nom si on ne connaît pas? C'est qui est représenté?
Souvent d'ailleurs, vous n'allez pas trouver les réponses, mais ce qui est bien avec l'art, c'est qu'on peut toujours s'imaginer des solutions et il n'y a jamais rien qui est faux. Ok?
J'aime la chanson de ma ville, le ronronnement des voitures, la pétarade des motos, fortissimo. J'aime la chanson de ma ville, les crissements du métro, le son des marteaux piqueurs en mi bémol majeur, le cliquetis des verres dans le pub d'en face, le chant des conversations que j'écoute depuis mon balcon. Il y a quand même un refrain qui me tape sur les nerfs au détour d'une rue. Psst,
miaou.
Psst, psst, hé mademoiselle. Psst, ta belle jambe, tu sais. Psst, hé, hey, tu te retournes quand je te parle. J'aime la chanson de ma ville, le concerto des sirènes, l'orchestre des klaxons. Me diapason. J'aime la chanson de ma ville, le pot pourri des portables, la rythmique des escalateurs, en ternaire ou en binaire, les aboiements des caniches de ma voisine de palier, à 6 heures du matin, quand elle sort les promener. Il y a quand même un refrain qui me donne la nausée en plein cœur d'une rue. Ne me touche pas. Psst, vas-y, t'aimes ça. Lâche-moi. Avec ta tenue, tu l'as bien cherché. J'aime la chanson de ma ville, les poèmes écrits sur ses murs, ses lumières qui vibraphonent. Ad libitum. J'aime la chanson de ma ville, le crescendo de ses voix, de République à la Nation, à l'unisson.
Vous êtes bien sûr 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. On vient d'écouter Kelka dans l'album Balaye les nuages. J'aime la chanson de ma ville.
Secret de l'école. Les secrets de l'école.
Cette année, on a décidé de vous parler de notre classe en radio.
On s'appelle Zacharia, Ella, Robert,
Maïlis, Farel, Aya,
Lucas, Animata, Céliane,
Lorena, Anna,
Fatoumata, Medjine et Trissi.
Pour cette première émission, on répond à la question « C'est quoi la SECPA ?»
Les secrets de l'école.
On dit souvent que le collège, c'est pour les grands. C'est un peu vrai. Déjà, le collège est plus grand que l'école primaire. On y trouve les classes de 6e aux classes de 3e, alors forcément cela fait plus de monde.
L'emploi du temps change ainsi que les règles qui deviennent plus strictes pour apprendre à vivre ensemble et à se respecter les uns et les autres. On étudie plus au collège car il y a plus de matières.
Au collège, il y a
des heures de colle, quand on fait des bêtises, qu'on arrive en retard, qu'on insulte, etc.
Des permanences. On doit rester calme et s'occuper. Il se passe principalement quand le prof est absent ou quand tu es en retard.
Le CDI. Tu peux aller au CDI pendant les récrés, des permanences ou autres. C'est une pièce pour lire, il y a des ordinateurs et des livres.
Au collège, il y a surtout des nouveaux adultes.
Par exemple, les CPE.
Elles s'occupent de ta vie au collège à régler tes problèmes.
Comme le harcèlement et les bagarres, etc.
Il y a aussi la vie scolaire avec les surveillants qui te permettent de gérer ta vie d'élève.
Au collège, on a plusieurs professeurs et plusieurs classes. Tes horaires sont différents. Parfois, tu peux finir plus tôt ou commencer plus tard. L'infirmier ou l'infirmière reçoit tous les élèves qui rencontrent des petits soucis de santé et peut les guider vers les autres professionnels. Tu peux aussi aller le voir si tu as des questions sur ta santé ou sur ton corps.
Le chef de cuisine compose un menu chaque semaine avec le gestionnaire. Il prépare avec l'aide de son équipe les repas pour tout le collège.
Le personnel de service, ce sont toutes les personnes chargées de l'accueil, du nettoyage et de la maintenance du collège. Elles assurent le bon fonctionnement de l'établissement.
Leur travail au quotidien peut être facilité par le savoir-vivre de chacun d'entre vous.
Les secrets de l'école.
Nous, nous sommes en SECPA.
Qu'est-ce que ça veut dire SECPA ?
C'est la section d'enseignement général et professionnel.
C'est une classe qui accueille les élèves de la 6e à la 3e, présentant des difficultés scolaires importantes.
Quel genre de difficultés ?
Par exemple, des difficultés en lecture, en expression orale ou en écriture. Certains ont des difficultés avec la langue française.
Vous pouvez aussi avoir des difficultés en mathématiques ?
Oui, évidemment. En géométrie, en calcul ou en numération.
Ah oui, la classe fait partie du collège.
Exact. Il y a maximum 16 élèves dans la classe et il y a une classe de chaque niveau. Une classe de 6e, une classe de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e.
Comme c'est une classe avec moins d'élèves, le but est d'individualiser le travail.
Ça veut dire que le travail est adapté aux besoins de chacun d'entre nous. On n'a pas forcément les mêmes exercices. Certains sont plus courts ou avec des mots plus faciles. On peut aussi avoir des leçons à trous.
À la fin de la 3e, ça nous permet d'entrer dans une formation professionnelle diplômante.
Ou de continuer avec nos études.
En général, ce sont les enseignants de CM1 et de CMD qui proposent une orientation en SECPA.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
On espère que cette petite présentation du collège et de la SECPA vous aura intéressé.
À bientôt pour une autre chronique du collège Polizia.
Les secrets de l'école. Les secrets de l'école. Thank you.
Maîtresse ?
Maîtresse ? Maîtresse ?
Le journal de la création.
Bonjour les enfants. C'est un passage interdit. Ça fait des années qu'il est pas, il est fermé.
Merci aux intervenants de l'association Pépasson, la pédagogie des paysages sonores, Arthur Angerhardt pour les prises de son et Gaëtan Ricciotti pour le montage. Ce projet a été financé par la DSDEN du 94 à travers l'appel à projet Adage.
Le journal de la création.
Ricole London et Odette Duguay. Deux femmes, deux résistantes. Un parcours commun. À l'occasion de la semaine de la mémoire, qui commémore cette année les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élèves de deux classes de CM2 de l'école Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine ont souhaité mettre en lumière le parcours exceptionnel de deux résistantes ivriennes, Lise Ricole London et Odette Duguay. Avec le concours des archives de la ville et de la médiathèque municipale et l'aimable participation de Françoise London, ils vous racontent leur histoire, celle de la résistance à l'oppression et du prix de la liberté. Épisode 2. Sous l'occupation, Lise et Odette s'engagent. De la résistance contre l'occupation à l'arrestation.
Lise et Odette veulent lutter contre l'occupation. Elle s'engage de plus en plus dans la résistance. Elle crée et dirige un réseau de résistance à Ivry-sur-Seine avec le soutien du Parti communiste. Le général de Gaulle quitte la France à ce moment.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Pour aider les résistants, lui ou des journalistes leur donnent des conseils en utilisant la radio.
Le facteur s'est endormi.
Pour que les Allemands ne comprennent pas, ils communiquent avec des messages codés.
Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons.
Lise et Odette rédigent des tracts de résistance qu'elles lancent par les fenêtres des immeubles. Parfois, elles les mettent dans des boîtes aux lettres ou vont dans la foule et jettent les tracts avant de s'enfuir en courant. Pour ne pas se faire attraper par la police, elles font des petits tracts. Elles organisent également des manifestations pour exiger le retour des prisonniers ou plus de rations alimentaires.
Le 1er août 1942, Lise organise une manifestation à Paris dans le 14e arrondissement rue Daguerre. Avec d'autres résistants, elle intègre une foule principalement de femmes qui attendent l'ouverture d'un magasin. Lise monte sur une estrade et fait un discours contre l'occupation. Lise parvient à s'échapper, mais est finalement arrêtée par la police française en août 1942. Odette se rend chez Lise quelques jours plus tard, mais la police l'y attendait. C'est trop tard, elle est arrêtée elle aussi.
Suite à leur arrestation, Odette et Lise sont incarcérées à la prison de la Roquette dans le 11e arrondissement de Paris. Au printemps 1942, elles ont été déportées à Ravensbrück en train. Durant le trajet, les prisonniers sont entassés dans les wagons, sans eau et nourriture. Ils ont peur. Le train s'arrête à côté d'une grande forêt. À la descente du train, Odette et Lise se prennent des coups de pied et doivent se ranger. Elles doivent ensuite marcher pendant 3 km pour arriver au camp en traversant la grande forêt.
Puis elles attendent toute la nuit, debout, dehors dans le froid, avant d'être orientées vers leur baraquement. Elles y sont entassées à 600 femmes, alors qu'il n'y a de la place que pour 200. À l'intérieur, elles dorment sur des paillasses de 80 cm de large. Les prisonnières ont froid, sont à peine vêtues et mangent peu. Leur temps de sommeil est réduit. Elles sont réveillées à 3h30 du matin pour l'appel qui recommence chaque jour. Elles doivent se préparer et faire leur lit en très peu de temps.
Elles sortent ensuite pour se ranger et attendre quel que soit le temps, dans le froid ou sous la pluie. Elles attendent le passage des gardiens SS qui les comptent et les recomptent si elles se trouvent. Cela peut durer de très longues heures. Si certaines s'évanouissent, il est défendu de les aider. Les prisonnières travaillent ensuite toute la journée sous le contrôle des gardiennes. Elles sont exploitées dans toutes sortes de travaux forcés.
L'entassement des prisonnières, le manque d'hygiène, de nourriture et d'eau favorisent le développement de maladies. Les punitions sont fréquentes et peuvent aller jusqu'à l'exécution. À Ravensbrück, de nombreuses prisonnières meurent de maladies, d'épuisement ou fusillées. Lise et Odette sont ensuite déportées dans un camp à côté de la ville de Leipzig. Pour survivre à l'intérieur du camp, les prisonnières s'entraident et se soutiennent.
J'espère que l'émission vous a intéressé.
Maintenant sur 89.4 FM, vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux qui nous réserve, comme d'habitude, son cocktail musical. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un que vous connaissez bien à Radio Libertaire, c'est Louise Michel, une biographie qui vient de sortir aux éditions Perrin. C'est une biographie qui est signée par Marie-Hélène Bellac. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Valère-Marie.
Donc c'est vrai, on s'était vu autour de Agatha Christie.
Oui.
On avait fait une belle rencontre, une belle émission autour d'Agatha Christie, et vous menez toujours l'enquête. D'ailleurs, je vois que vous n'arrêtez pas de mener l'enquête. Et là, Louise Michel, j'avoue que j'ai appris plein de choses, vraiment. Et puis alors, je tiens à signaler, alors ça c'est très important pour nos auditeurs aussi, il y a un autre livre parallèlement qui vient de paraître aux en format de poche, sur lequel nous reviendrons peut-être au cours d'une autre émission. Mais il faut vraiment faire une émission entière. C'est La peur du peuple, histoire de la Deuxième République, 1848-1852. C'était donc paru chez Perrin en 2022 et ça sort dans la collection Tempus, collection de poche,
oui,
de Perrin.
De poche.
Et c'est vrai
à
que c'est
10 euros.
Voilà, je dis ça parce que ça peut être complémentaire aussi. Je pense, histoire...
Oui, de la période, oui, c'est ce 19e siècle qui a vu s'épanouir des socialismes. Et Louise Michel, d'ailleurs, s'inscrit dans ce mouvement. Donc c'est vrai, ça permet de comprendre des choses sur sa nature.
Alors, Louise Michel, ça c'est Ah voilà, vous commencez comme ça, Marie-Hélène Bellac. La Vierge Rouge, la pétroleuse, la nymphe du pétrole, la déesse du pétrole, la sanglante cabotine, la louve sanguinaire, la 9e égérie du Parti révolutionnaire. La fée de l'anarchie, la femme héroïque, l'héroïque citoyenne, la Jeanne d'Arc du drapeau noir, etc. etc. Et c'est vrai que vous dites, Louise Michel est un cas unique, personnage de l'histoire de France. Aucun personnage de l'histoire ne s'est vu attribuer autant de surnoms de son
oui.
vivant. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle en a eu ?
Oui. Alors à la fois des surnoms élogieux, oui. comme la grande citoyenne, c'est comme ça qu'on l'a appelée quand elle est revenue de Nouvelle-Calédonie en 1880. Et puis au contraire, des surnoms péjoratifs comme la pétroleuse ou comme la Vierge Rouge ou comme la nymphe du pétrole qui étaient donnés par tous ceux qui dénonçaient sa violence et l'anarchisme.
on l'a dit aussi, la Madone des anarchistes. Oui. Et je crois que c'est Alfred Le Petit qui disait « Louise Michel est une femme dans le genre Jeanne d'Arc, de Jeanne d'Arc et de Charlotte Corday ». Bon,
oui.
Bref.
Oui, oui, on l'a comparée à Jeanne d'Arc. D'ailleurs, elle est née à Vroncourt, qui n'est pas très loin de Don Rémy. Donc, il y a eu aussi cette analogie de son vivant.
Voilà. Alors, est-ce que c'est pour ça, finalement, que vu tous les surnoms qu'on a donnés à Louise Michel, que vous avez choisi un titre minimaliste,
oui,
Louise Michel ?
Oui, exactement. Parce que je me suis dit que si je mettais... Enfin, si j'aurais pu mettre l'anarchiste, hein, c'est vrai, après. Mais... j'aurais eu tendance à être pour ou contre, et c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'elle soit cataloguée, d'autant que c'est une personnalité extrêmement riche. Et voilà, donc ce titre, effectivement, minimaliste.
Minimaliste, et c'est vrai que voilà. Alors, vous écrivez, pour la plupart d'entre nous, nous, Louise Michel est un nom, mais elle n'est pas qu'un nom. Le temps est venu d'une réappropriation qui est l'objet de ce livre. Mmh. Comment redécouvrir Louise Michel bien longtemps après ?
Alors, je pense que enfin, j'ai fait ce que j'aime faire à chaque fois, c'est-à-dire partir déjà dans les textes de l'auteur, puisqu'elle est une femme politique, mais aussi une écrivaine. Elle a beaucoup écrit, rien qu'entre 1881, enfin les 20 années qui ont suivi son retour de Nouvelle-Calédonie, elle a écrit autant d'œuvres, une vingtaine d'œuvres aussi. Hein, donc c'est, et puis beaucoup de textes qui n'ont jamais été publiés, ou qui pour certains commencent à l'être, je pense à La Chasse au loup. Je suis partie dans les archives, dans ce qu'elle avait écrit qui était publié, mais aussi dans sa correspondance. Il y a beaucoup d'archives à Amsterdam, dont une partie est d'ailleurs numérisée, ce qui facilite le travail, mais enfin il y en a aussi beaucoup à Paris. Il y en a un petit peu en Nouvelle-Calédonie, mais en Nouvelle-Calédonie il y a surtout la mémoire des lieux, si je puis dire. Et puis j'ai comparé, j'ai étudié, je l'ai remise dans son contexte, et j'essayais de voir à la fois la presse aussi, parce que la presse à l'époque est extrêmement importante, et en plus les anarchistes s'en servent pour communiquer. Hein, souvent, elle donne les dates de ses rencontres, où elle écrit à ses amis à travers la presse, notamment à travers la Révolution sociale. Et là, bien sûr, ça permet à la fois de la comprendre, de la comprendre dans son temps. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'était parce que c'est une femme